Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, nos enfants ont-ils trop de vacances ? Cela fait penser à une nouvelle de Marcel Aimé, le décret dans laquelle les grandes puissances de ce monde se mettent en tête de disposer du calendrier. Les chefs d'État et les ministres se mirent à consulter des traités de philosophie. Il devint évident que la notion de temps était une assez risible balançoire. Le vieux et inexorable dieu Chronos, qui avait jusqu'alors imposé la cadence de sa faux, perdit beaucoup de son crédit. Les hommes étaient maîtres du temps et ils allaient le distribuer avec beaucoup plus de fantaisie que n'en avait mis dans sa trop paisible carrière le dieu découronné. On imagine Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer devisant ainsi sur le temps physiologique, le temps compressible, le temps subjectif, et décidant de reprendre la main sur le calendrier scolaire. Le Premier ministre, dans une procédure très rare, a saisi cet été le Conseil constitutionnel à propos de l'article L521-1 du Code de l'éducation sur les congés scolaires. Il n'est pas question, nous dit-on, de bouleverser incessamment un calendrier qui ordonne depuis des années les transhumances estivales et le grand chassé croisé, mais d'amorcer un début de réflexion sur la durée des vacances, leur répartition dans l'année, en premier lieu pour le bien des enfants, leur santé, mais aussi la qualité de leur temps extrascolaire. Vous rentrez tout juste de congé ou vous y êtes encore? N'écoutez pas cette émission. Nos enfants ont-ils trop de vacances? Mais bien sûr, écoutez-la, trois invités pour en débattre jusqu'à 19h. Bonsoir Frédéric Rollet.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du SNES-FSU, le syndicat national des enseignants du second degré. Vous êtes ici en studio ce soir pour débattre avec Philippe Mérieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de la pédagogie, professeur émérite à l'université Lumière Lyon 2. Et bonsoir à vous Myriam Ménez.
Bonsoir.
Présidente de la section du Val-de-Marne de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci donc à vous trois d'être avec nous pour discuter et pour débattre de ce calendrier des vacances scolaires. De quand date-t-il d'ailleurs ce calendrier tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire deux grands mois de congés d'été et ensuite un rythme annuel à peu près organisé par l'eau de 7 semaines de travail, 2 semaines de vacances. Philippe Mérieux, il date de quand ?
Il s'est imposé petit à petit, mais il a été stabilisé par Vincent Peillon. Et cela a même été inscrit dans la loi, puisque, vous le savez, c'est le Conseil constitutionnel qui récemment a enlevé de la loi pour lui donner un statut réglementaire l'alternance des 7 semaines de travail et des 2 semaines de congé.
Mais les deux mois de vacances d'été, ça fait quand même très longtemps que c'est en place tel que...
Bien sûr, les deux mois de vacances d'été datent quasiment des origines de l'école de la République. C'était les vacances d'été qui étaient consacrées alors au travail des champs, puisque beaucoup de familles étaient des familles d'agriculteurs et que les enfants étaient libérés pour pouvoir travailler avec leurs parents dans les exploitations agricoles.
Les historiens disent qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves pour en être certains.
On n'a pas suffisamment de preuves, mais on a une concordance quand même.
Frédéric Rollet, est-ce que les enfants, les élèves français sont plus ou moins bien lotis en ce qui concerne l'été? On peut dire bien lotis parce qu'ils les aiment, ils y tiennent à leurs deux mois de vacances. Par rapport aux autres, en tout cas par rapport aux pays européens, dans quelle moyenne se situe-t-on?
C'est deux petits mois, non pas deux grands mois, puisque c'est le gouvernement précédent, d'ailleurs, oui, de Vincent Peillon, avait fixé des bornes en disant là, on met une borne qui est la rentrée des élèves le 1er septembre, sauf si c'est un vendredi, donc on reporte au lundi, évidemment, dans ces cas-là. Et la fin des cours se situera à la fin de la première semaine de juillet. Ce qui s'est produit donc cette année, d'ailleurs, on était complètement dans les clous de ce point de vue. Si on regarde maintenant les comparaisons internationales, la France est dans la moyenne des pays. Globalement, les pays du Sud sont plutôt avec des vacances d'été plus longues. Les pays du Nord, un petit peu moins. Mais donc ça va entre 13 semaines pour ceux qui en ont le plus, et puis
3 mois en Italie.
Oui, voilà. Et puis 6 semaines en Allemagne. Mais donc nous, on est vraiment justement à peu près dans la moyenne, voire même dans une moyenne basse, oui.
J'ai lu qu'en Corée du Sud, les élèves avaient 3 semaines de vacances, mais là, on s'éloigne de l'Europe. Mais voilà. Frédéric Rollet, pourquoi vous dites que, je l'ai lu en tout cas quelque part, vous ne venez pas de nous le dire, mais que ces congés, ce calendrier n'est pas respecté partout en France selon les zones ?
Non, ce qui n'est pas respecté, c'est ce dont Philippe Mérieux parlait, c'est-à-dire l'alternance, 7 semaines de cours, 2 semaines de congés. Comme on a 3 zones, hein, qui bouge, mais il y a toujours un zonage en trois périodes. On se retrouve avec un calendrier scolaire où, notamment entre les vacances de février et de Pâques, les vacances de printemps, on a certaines zones, il paraît, alors c'est pas les mêmes à chaque fois, qui se retrouvent avec 5 semaines, par exemple, de cours. Ce qui est évidemment trop peu, parce que on peut pas installer des apprentissages, ensuite évaluer, etc. en 5 semaines. Et alors à l'inverse, et c'est le cas, d'ailleurs c'était le calendrier qui avait été présenté il y a un an, en juillet 2018, on se retrouvait par contre avec du coup un troisième trimestre qui pouvait aller jusqu'à 11 semaines pour la zone 1.
Donc d'où la question qui se pose, Myriam Ménez, au ministre de l'Éducation qui aujourd'hui a les mains libres, hein, le Conseil constitutionnel lui a permis en quelque sorte cet été d'avoir la main sur le calendrier de ses vacances. La question n'est pas de savoir s'il va réduire les vacances, mais les mieux répartir. Ou pas.
Pour nous, oui, déjà, il y a quand même ce vrai problème de ces trois zones. Elles posent effectivement cette difficulté que les premiers qui partent en février partent finalement un peu tôt. Les enfants auraient pu travailler une semaine de plus, c'est très clair. Et par contre, ce sont ces mêmes enfants qui vont se retrouver avec une période extrêmement longue en fin d'année, période qui finalement ne s'applique réellement qu'aux petits. Parce que finalement, dans le second degré, donc collège, lycée, on voit apparaître maintenant, du fait d'un certain nombre de procédures, et c'est là aussi où il faudrait que le ministre travaille, qui mettent en place des conseils de classe dès la fin du mois de mai, et qui font que très vite, les enfants, on le sait très bien, même si l'établissement est ouvert, quand on a eu son conseil
Monopoly.
De classe, non, on ne revient plus dans les locaux. Et puis, on arrive aussi très vite à avoir une fermeture des établissements pour préparer les examens. À l'inverse, dans le premier degré, les enfants, eux, restent bien, vraiment, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est il y a deux choses à voir. Les vraies vacances pour les petits, c'est le vrai calendrier. Pour les grands, c'est en fonction des procédures qui sont mises en place et de la date de fermeture de l'établissement scolaire dans lequel ils sont et qui amène parfois à pratiquement 3 mois.
Alors Philippe Mérieux, est-ce que le débat est dans le fait de savoir si on a trop de vacances ou pas assez bien réparties dans le temps?
Pour moi, le vrai débat, c'est de savoir qu'est-ce qui aiderait l'enfant à mieux se développer, tant du point de vue physique, du point de vue intellectuel, du point de vue de sa socialisation. Et de chercher les équilibres entre le temps familial qui est nécessaire, et il faut du temps dans la famille, c'est du temps avec les parents, pour parler avec les parents, pour faire des choses avec les parents, et c'est un vrai sujet de réflexion aussi, hein, je pense que vous en êtes d'accord. Le temps à l'école, qui est un temps structuré, qui est le temps des apprentissages organisés, qui est un temps de la découverte aussi de l'altérité. On découvre que notre famille n'est pas la seule, qu'elle est dans un monde où il y a d'autres familles qui pensent et qui font autrement. Et il faut, je crois, veiller à cette spécificité extraordinairement positive de l'école publique, qui est celle de la rencontre d'autres que soi, de gens issus d'autres milieux. Je crois que c'est dans les gènes de l'école publique que d'être le contraire d'un entre-soi, que d'être la découverte de l'altérité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, et qui mériterait vraiment qu'on y travaille. Et puis il y a à côté un troisième temps pour l'enfant qui est absolument nécessaire. Alors nous appelons ça les tiers-lieux, c'est un peu péjoratif, mais nous pensons qu'il y a un temps pour l'engagement de l'enfant dans des activités sociales, sportives, culturelles, l'engagement de l'enfant pour prendre des responsabilités en fonction de ses goûts, en fonction des opportunités qu'il rencontre aussi. Et je crois que là-dessus, la France n'a pas suffisamment réfléchi depuis quelques années. Les mouvements d'éducation populaire ont été profondément abîmés par des politiques successives. Les vacances sont aujourd'hui souvent des occasions plus de consommation que de construction, de collectif et de socialisation. Il me semble qu'il faudrait revoir tout ça et l'agencer autrement qu'en se disant... quel est l'intérêt des gens du tourisme? Quel est l'intérêt des enseignants? Quel est l'intérêt des parents? Le seul intérêt de ces trois catégories d'individus ne suffit pas pour stabiliser les vacances. Il faut réfléchir à ce qui est utile et ce qui est important pour qu'un enfant puisse se développer au mieux.
Alors Philippe Mérieux, vous dites que l'école change, les élèves en tout cas leur apprend ce que c'est que de vivre autrement, de rencontrer d'autres familles. L'école nous change, mais les vacances nous changent-elles ou nous changent-elles encore, Frédéric Rollet, quand des enseignants retrouvent des élèves après 2 mois de vacances, et vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous les trouvez grandis, changés, ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont tout oublié ?
Donc je trouve grandi, changé, c'est une
réalité. Après deux mois de vacances, hein, je reste sur les vacances d'été pour l'instant.
Moi je suis professeure en collège, donc une tranche d'âge où les choses bougent très très vite, que ce soit physiologiquement, psychiquement, enfin bon, donc effectivement il y a des changements. Non, ils n'ont pas tout oublié, heureusement, mais pour beaucoup d'entre eux, non, mais il y a des choses de toute façon qui mettent du temps à mûrir et qui ont dont on pensait qu'elles étaient peut-être oubliées. On s'aperçoit que quelque part, non, c'est que c'est quand même ancré, ça ressurgit d'une autre manière. Ensuite, on a des élèves en lycée qui ont fait des expériences alors du travail, par exemple, c'est de plus en plus le cas, notamment alors chez les lycéens en BTS, mais même un peu avant en terminale, il y en a qui font des petits boulots, qui se confrontent aussi un peu au monde du travail et pour qui revenir dans le système scolaire, c'est aussi une respiration, parce que quelquefois au départ, on a le discours des jeunes sur le côté vivement qu'on travaille, parce que ce sera moins coercitif que l'école, et puis bon, après, ils se rendent compte des contraintes du monde du travail.
Donc c'est pas la longueur des vacances d'été qui pose problème, encore une fois, Myriam Ménez. J'essaie de bien comprendre vos positions à vous tous sur les vacances d'été, la durée des vacances.
Alors, moi je vais aborder il reste aussi une problématique qui reste aussi les locaux, hein. Si on réduit en dessous de 8 semaines, il faut savoir que les collectivités territoriales ne pourront plus engager un certain nombre de travaux de rénovation dans les établissements. Donc nous, parents, on veut aussi des locaux qui soient adaptés. Le coup de chaud qu'on a eu fin juin a montré à quel point, d'ailleurs, il y avait encore beaucoup de travaux à faire. Donc il faut aussi laisser du temps pour les locaux, mais d'une manière générale, je reprends un petit peu derrière Monsieur Mérieux, mais je pense que quand vous avez des familles qui vous disent les vacances sont trop longues, quand on creuse un peu, souvent c'est des familles qui se trouvent dans des endroits où rien n'est prévu en termes d'activité pour leurs enfants. Et n'avoir qu'à constater que ces enfants restent enfermés à la maison en ne sachant pas ce qu'ils font éventuellement, enfin bon, on le sait très bien, hein, souvent c'est la console, la télé, enfin etc. C'est très embêtant. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas tant la durée des vacances, bien que on reste un peu persuadé qu'en dessous de 8 semaines, on risque d'avoir beaucoup d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément anticipé.
Du style de santé, vous voulez dire ou...
Non, du style des travaux, de toutes ces choses-là. Il ne faut pas oublier que dans les familles qui sont séparées, il y a un jugement du tribunal qui donne clairement à l'un le mois de juillet, à l'autre le mois d'août. Si on commence à amputer des deux côtés, on a des parents qui ne voient leurs enfants que pendant ce mois-là. C'est aussi au niveau de la famille, on enlève le peu de structure qui peut rester. Mais très sincèrement, la plupart des familles n'auront, les quelques familles qui ont ce sentiment de vacances trop longues, ne l'auront plus le jour où, effectivement, leurs enfants pourront trouver, au sein de là où ils vivent, des activités intéressantes, structurantes, et qui leur apportent des choses.
Philippe Mérieux, est-ce qu'on a une idée déjà du nombre d'enfants qui ne partent pas en vacances, du nombre de Français?
Alors, je crois que c'est de l'ordre de 45%.
Oui, 1 sur 3,
Alors, on a une idée du nombre de familles.
Oui, de familles.
Alors, du nombre d'enfants, je n'ai pas trouvé une statistique exacte, mais il est très nombreux. Il est très nombreux et malheureusement, pour ces enfants, c'est souvent effectivement la console, le jeu vidéo et peu d'activités offertes.
Mais d'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'on a pris le temps d'évaluer les inégalités que génère le temps libre, puisqu'on l'a fait pour le temps scolaire? On sait aujourd'hui ce que le temps scolaire peut générer d'inégalités. Est-ce qu'on l'a fait pour le temps libre? Est-ce qu'il y a des études sociologiques?
Non, on l'a fait très peu et on n'a pas la culture de cela en France.
Oui, justement, moi j'avais été un peu alertée par le titre il y a un mois ou 3 semaines, je sais plus, d'un grand journal du soir qui titrait « Les vacances scolaires aggravent les inégalités ». Et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est parce que d'abord l'école les corrige, mais c'est pas suffisamment à mon goût. Mais c'est ensuite comment on fait pour que les vacances scolaires n'aggravent pas ces inégalités. C'est pas en mettant les élèves, on peut pas mettre les élèves à l'école de toute façon, les enfants à l'école tout le temps. Donc c'est effectivement quelle offre de formation on est à disposition qui soit à la fois ludique, parce qu'il faut évidemment aussi un temps de détente, mais aussi intéressante.
Philippe Mérieux, les colonies de vacances, alors c'était fait pour ça?
Oui, alors bien sûr, mais d'abord on pourrait dénoncer l'escroquerie des cahiers de vacances, hein, qui sont une sacrée...
Pourquoi escroquerie?
Aujourd'hui, une manne pour un certain nombre d'éditeurs, dont la plupart sont commencés mais jamais finis, et qui permettent à un certain nombre nombre de gens de se donner mot de conscience à peu de frais, que ce soit du côté des parents ou des enseignants d'ailleurs. Donc les vacances sont pas faites pour faire des devoirs de vacances. En revanche, on peut, avec ses enfants, faire des tas de choses qui leur permettent de se remémorer des savoirs. On peut faire des recettes de cuisine et travailler la proportionnalité. On peut lire des livres, par exemple, lire des livres, oui, retrouver le goût de la lecture pendant les vacances, vous qui êtes prof de français, les lire avec ses enfants. Enfin, il y a des choses formidables à faire. Mais pour ça, il y a tout un travail auprès des parents. Et la France est très, très en retard dans ce travail que nous appelons de formation à la parentalité. Nous avons très peu de choses dans les quartiers. Nous avons très peu de choses qui vont aider les familles à inventer, à trouver des activités à faire pendant les vacances, autre que la télé et la console. Et puis, vous dites, et je suis d'accord avec vous, qu'il faut 7 à 8 semaines d'interruption. Je crois que c'est vrai, il faut 7 à 8 semaines d'interruption en été. Les travaux sont nécessaires. Mais il y a des établissements qui ne sont pas en travaux. Et moi, j'ai souvenir de belles expériences dans l'éducation nationale, de collèges ouverts l'été, avec des activités extrêmement intéressantes, et où des gamins qui n'avaient qu'une idée en tête pendant l'année scolaire, c'était de fuir le collège, eh bien là, ne voulaient pas le quitter. Tellement ils y étaient bien et tellement ce qui faisait les intéresser. Et ça, c'est formidable.
Mireille Ménès, je reviens sur les colonies de vacances. Elles sont, disent les parents aujourd'hui, de plus en plus chères, donc de moins en moins mélangées. Il y a quoi? Il y a un désengagement de l'État? C'est le financement public qui fait défaut? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a beaucoup de choses. La première, c'est qu'effectivement, et heureusement, pour assurer une véritable sécurité de nos enfants, les normes deviennent extrêmement... Elles vont très loin, et ça a un coût. Donc ça, il faut aussi l'entendre.
Par exemple, il y a des moniteurs qui ne peuvent plus... Directeurs de colonies...
Alors déjà, sur le nombre d'encadrants, il faut plus d'encadrants, mais c'est surtout sur les locaux. Les locaux sont... On peut moins faire des colonies de vacances, un petit peu à la hop-hop-hop, dans un vieux bâtiment qu'on a récupéré et où on installe un peu tout et n'importe quoi.
Les camps sous tente sont très réglementés.
Voilà, c'est... Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a eu des drames et pour les familles, c'est rassurant. Que l'État se désengage, c'est pas le mot. Peut-être qu'il faudrait par contre voir la mise en place de coefficients familiaux, effectivement, sur ces colonies. Le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, moi si je prenais juste l'exemple de ma ville, les colonies qui sont proposées par la mairie, j'ai des mamans qui m'expliquent que depuis 8h du matin, elles font la queue alors que ça va ouvrir qu'à 15h parce que premier arrivé, premier servi. Donc effectivement, quand l'offre n'est pas suffisante, vous imaginez bien que c'est celui qui a le temps d'aller faire la queue qui va pouvoir. Donc il y a une offre à augmenter, à revoir. Il faut voir aussi qu'il y a des enfants qui ont besoin de pouvoir rentrer chez eux le soir. On ne met pas assez en place aussi une offre qui permettrait à proximité d'aller faire des journées à la ferme, d'aller... Et puis aussi, il manque une offre sur du culturel, du sportif, qui soit qu'à la journée. On n'a pas forcément besoin de colonies de vacances. Un enfant ne va pas passer 2 mois en colonie de vacances. Il passe une semaine, 2 semaines, mais il faut trouver d'autres choses aussi.
Il faut absolument que les colonies de vacances ne soient pas, comme nous en avons la menace aujourd'hui, assujetties à la réglementation des industries du tourisme.
Tout à fait.
Il faut qu'elles bénéficient d'une dérogation.
Qu'est-ce que c'est cette menace, Philippe Mérieux?
Comment?
De quoi s'agit-il? De quelle menace parlez-vous?
Je crois qu'il y a eu à plusieurs reprises des injonctions de la communauté européenne pour dire que les colonies de vacances devaient être soumises aux procédures qui sont celles du tourisme aujourd'hui, qu'il devait y avoir aussi en termes de colonies de vacances, des systèmes de marché public, etc. Tout cela est évidemment extrêmement préoccupant parce que ça remet en cause les principes de l'éducation populaire servis à ceux qui en ont le plus besoin, bien évidemment. Et je crois qu'il faut se mobiliser. Les colonies de vacances sont des outils formidables, bien plus que les vacances à points, vous savez, avec la carte où on fait 1 heure de parapente, 1 heure de macramé et 1 heure de canoë-kayak. Non, la colonie de vacances est un lieu où on apprend le collectif, où on fait ensemble et c'est formidable et nécessaire pour un gamin.
Voilà, l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes dit que le nombre de mineurs partis en séjour collectif a baissé de 12% entre 2009 et 2019. Frédéric Rollet, il y a quelque chose à faire dans le tourisme, on appelait ça le tourisme social, la ligue d'enseignement. C'était ça, c'était un projet.
Oui, on parlait d'éducation populaire
à des enfants.
C'était à la fois avoir des objectifs de mixité sociale qui sont de moins en moins opérants. On sait qu'on est dans une ghettoisation de plus en plus grande, que ce soit dans l'habitat, dans les quartiers. Et donc là, c'était cette occasion-là. Et puis, d'avoir accès à des loisirs ou en tout cas des occupations intéressantes que ne peut pas offrir la famille, forcément. Oui.
Est-ce que c'est une fatalité alors que les vacances creusent les inégalités sociales?
Non.
Qu'est-ce que vous imaginez?
Non, c'est loin d'être une fatalité, c'est l'inverse. Oui. Il faut justement se mobiliser pour que les vacances soient un moment où les enfants découvrent les savoirs autrement. Ils vont découvrir qu'il est intéressant d'apprendre, mais ils vont le découvrir dans un autre cadre et ça va les remotiver pour apprendre à l'école.
Myriam Ménez, si vous voulez, il y a un vrai besoin aussi d'imaginer des sortes de passe-famille qu'on pourrait d'ailleurs pour le coup offrir aux familles les plus en difficulté pour pouvoir profiter d'aller le samedi, le dimanche, dans les musées, ce qu'on ne fait pas forcément pendant l'année, pour créer aussi un moment d'échange avec les parents, un moment où on apprend ensemble. Quand on accompagne ses enfants dans un musée, on apprend autant qu'eux. En général, le musée, on ne l'a pas fait avant. Et ça, c'est des moments
d'ailleurs,
énormes.
D'ailleurs, quelquefois, les enfants sont très heureux d'expliquer
oui,
à leurs parents.
Oui, on voit.
Ça prenne beaucoup à
oui, parce que là, ils renversent les rôles et ils sont contents.
Des idées, on pourrait presque en faire des livres entiers. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que ceux qui peuvent aider à ce que ça fonctionne, en particulier les collectivités territoriales, s'ouvrent aussi à cette volonté que tout le monde puisse, pendant les vacances, finalement être dans sa région, être chez lui, et profiter de tout ce dont il ne profite pas pendant tout le reste de l'année, d'aller au musée, d'avoir le temps de regarder des choses.
Alors, simplement, vous parlez des collectivités territoriales et de l'argent qu'elles pourraient mettre au pot aussi pour
enfin,
chacune.
L'État,
mais alors, vous, Philippe Mérieux, l'État, d'accord, les collectivités locales, elles sont asphyxiées aujourd'hui.
Voilà.
Et alors, si j'en viens à cette question des collectivités locales, c'est parce que qui dit questionnement débat sur le temps des vacances dit aussi questionnement sur les journées, les semaines des écoliers, plus légères ou non, si on réorganise le temps de l'école. On sait que Jean-Michel Blanquer a permis aux communes à la rentrée 2018 de revenir à la semaine de 4 jours pour celles qui le souhaitaient, que 85% d'entre elles sont revenues à la semaine de 4 jours parce qu'elles ne pouvaient pas financer d'activités périscolaires, qu'elles n'y arrivaient pas. Philippe Mérieux, vous dites que c'est de la démagogie.
Ah non, je dis simplement que les communes avaient des difficultés pour certaines à financer ces activités périscolaires, mais ce ne sont pas ces difficultés qui ont permis de prendre la décision de revenir à la semaine de 4 jours.
Pourquoi ?
C'est des problèmes de confort pour un certain nombre de gens qui préfèrent, de toute évidence, ne pas s'embêter avec des problèmes d'emploi du temps. Moi, j'estime que revenir sur la semaine des 4 jours avant même que ce dispositif ait été évalué par un ministre qui ne cesse de dire qu'il faut évaluer avant de décider, avant d'agir. Revenir sur la semaine des 4 jours et demi dans un contexte européen où nous sommes de toute évidence, et là, contrairement aux vacances d'été, les seuls à avoir un si petit nombre de jours de cours, avec des jours de cours aussi longs pour les enfants du primaire, enlever de facto 36 jours par an de fréquentation de l'école, parce que ça fait 36 jours en moins où les enfants sont à l'école, hein. Enlever 36 matinées qui sont un temps de réflexion dont on sait qu'il est utile et efficace pour les enfants, au moment où on prétend porter la priorité pour l'école primaire, ça me paraît totalement irresponsable.
Sauf que vous, Philippe Mérieux, êtes attaché justement à cette question des inégalités scolaires et extrascolaires. Or, on voyait bien que dans les communes rurales qui n'avaient pas les moyens de financer des animateurs, par exemple, qui ont dû faire appel à des retraités, qui ont dû des retraités pour faire, je sais pas, des ateliers de modélisme, enfin que entre communes, il y avait des inégalités, Frédéric Rollet.
Oui, je pense que le dossier a été mal instruit à l'époque, c'est-à-dire que on savait bien que il y avait une discussion qui devait être tripartite entre les collectivités d'un côté, les parents d'élèves et les personnels d'éducation de l'autre, puisqu'il y a des problèmes qui ont été soulevés petit à petit, y compris sur l'occupation des locaux, le professeur des écoles disant bah oui mais moi on m'a bougé mon matériel parce que etc. Bon, donc ça a été la décision a été à mon avis a manqué de concertation. Alors effectivement il y a quand même des problèmes. Il y avait des problèmes réels, notamment dans les petites communes. C'était pas seulement une question de financement, c'est de trouver les gens. Parce que nous, on peut pas employer à temps complet un animateur parce que on a juste une école qui a deux classes ou trois classes. Donc, il a fallu le mutualiser avec d'autres communes, mais ça pose des problèmes là pour les personnels eux-mêmes. Enfin bon, mais effectivement, je pense que c'était qu'une dimension et que on aurait pu après une discussion plus approfondie.
C'est pas dans les petites communes que ça se passait le plus mal. Et il y a eu de très belles initiatives dans les petites communes avec de la mutualisation. Effectivement, on a fait parfois appel à un retraité, mais pourquoi pas si on peut créer des passages entre
mais oui, mais plein de bonne volonté, mais qui eux-mêmes, pour certains, pour les avoir rencontrés, disaient je sais pas trop ce que je fais là, je vais le
c'est
faire
vrai,
le mieux
donc
possible.
On a manqué d'un temps de formation. Je suis d'accord sur le fait qu'on a manqué aussi d'un temps de concertation, que ça a été fait d'une manière un peu maladroite, mais ça a été surtout défait avant même qu'on ait pu comprendre l'intérêt que ça avait, et ça a été défait au moment où les problèmes commençaient à se résoudre. Et puis des très grandes villes, moi j'habite Lyon, ont choisi des formules complètement hallucinantes, comme le fait de libérer le vendredi après-midi tout entier par exemple, c'est-à-dire d'avoir une semaine complètement et encore plus encore qu'avant déséquilibrée, et on peut pas dire que la ville de Lyon soit particulièrement exposée aux difficultés financières pour recruter des animateurs.
France Culture, du grain à moudre, Julie Gacon.
Nos enfants ont-ils trop de vacances? Nous en débattons jusqu'à 19h avec nos trois invités. Frédéric Rollet, du secrétaire général du SNES FSU, Myriam Ménez, présidente de la Fédération des parents d'élèves dans le Val-de-Marne, et ainsi qu'à vous, Philippe Mérieux, spécialiste de la pédagogie et professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2. Nos enfants ont-ils trop de vacances? Apparemment, les Français commencent à répondre oui et à se faire à cette idée, puisque des sondages IFOP, là les tout derniers, disent que 62% seraient prêts à revenir sur les 8 semaines de vacances d'été pour les ramener à 6. Quelle transformation sociale plaide aujourd'hui contre des vacances trop concentrées sur le temps, Myriam Ménez?
D'abord, en tant que parent, il y a un constat qui est assez amusant, c'est que quand on part en vacances, comme il fait chaud, on passe en short. Quand on revient, on enfile le pantalon et là, au malheur, il manque pas mal de centimètres en bas. Cette période permet aussi aux enfants de grandir. On n'a aucune idée de l'impact que cela pourrait avoir sur nos enfants de réduire encore ce temps. C'est un temps où les enfants peuvent relâcher réellement. Le réduire, enfin, si vous voulez, moi, ce que j'aime bien dans les sondages, c'est que j'aimerais aussi savoir quelle est la part des parents qui répondent à ces sondages, parce que j'ai vu des choses très amusantes, notamment quand on parlait des rythmes scolaires, où on demandait quand même l'avis d'un petit peu tout le monde, y compris et en particulier de ceux qui n'avaient pas d'enfants, donc en tout cas scolarisés.
C'est pas une des conditions sine qua non pour répondre à ce genre de sondage?
Ben, si vous voulez, il faut vraiment être concerné, il faut vraiment avoir un enfant, il faut vraiment se rendre compte. Moi, je voudrais juste faire un tout petit retour. Il existait une ancienne semaine de 4 jours il y a très très longtemps. Pour pouvoir avoir cette semaine de 4 jours, il fallait partir une semaine plus tard et revenir une semaine plus tôt. La moralité, c'est qu'on démarrait l'année avec seulement 30% des enfants présents et on finissait l'année, il n'y en avait pratiquement plus aucun. Donc, en gros, quand on réduit de 2 semaines les vacances scolaires, les familles ne suivent pas. Donc ça, il faut quand même entendre. C'est le risque. On a déjà des familles qui aujourd'hui rentrent après la rentrée et partent bien avant. Donc il faut se méfier de ne pas générer là encore une inégalité sociale avec des enfants qui partiront en vacances pendant que les autres auront finalement transformé l'école en garderie. Et l'école n'est pas une garderie. L'école est un lieu des apprentissages.
Vous êtes tous d'accord là-dessus, Frédéric Rollet?
Oui, on sait que pour des raisons, alors qui sont quelquefois, d'une certaine façon, légitimes, mais on l'a vu par exemple cette année avec le report du brevet des collèges de quelques jours, des familles...
Pour cause de chaleur.
Oui, avaient pris des billets d'avion, mais c'est des familles qui retournent dans leur pays d'origine et qui prennent les billets parce que c'est moins cher à telle époque.
Le
1er juillet, qui l'ont pris très longtemps à l'avance. Et donc, pour qui on doit demander des dérogations pour qu'ils puissent passer des épreuves, par exemple du brevet, là, au mois de septembre. Effectivement, on sait aussi que, de toute façon, on a aussi de plus en plus de familles recomposées, avec des enfants qui passent une partie des vacances avec le père, une autre partie avec la mère. Bon, tout ça est un peu complexe. Et je crois que c'est pas là le problème central. C'est vraiment le temps de l'élève plus globalement, quoi.
C'est l'organisation de la semaine.
Oui. Et puis, très, très rapidement, si on se fie juste à ce qui s'est passé cette année, si on devait encore enlever une semaine, enfin là on était avec la canicule, on était presque à deux doigts de rajouter une semaine de vacances parce que les locaux étaient totalement inadaptés. Donc en plus, ça sous-entendra de prendre en compte cette possibilité, cette éventualité qu'on ait une canicule pendant la période scolaire.
Là, les paysagistes du monde entier commencent à réfléchir à mettre des arbres partout dans les cours d'école pour qu'on puisse préparer les élèves.
Végétaliser les toits.
Ouais, végétaliser. Non, les cours d'école, en l'occurrence, apparemment, ce serait plus efficace que de végétaliser, comme on dit. Et là-dessus, je crois qu'il y a débat sur l'utilisation de ce terme, les toits. Philippe Mérieux, vous parlez du temps des élèves. Est-ce que c'est la même chose de parler du temps des élèves et de la durée des vacances, de parler de temps et de durée quand on parle de l'école?
Ah non, pas du tout. En matière éducative, le temps, c'est pas une donnée constante. On peut passer beaucoup de temps et ne rien apprendre, et puis apprendre quelque chose de très fort en très peu de temps. C'est pour ça que traiter de la question du temps, indépendamment de la nature des activités pédagogiques que l'on fait, indépendamment du découpage de la semaine et de la journée, indépendamment de l'exploration de la gymnastique intellectuelle qu'on impose à des enfants pour vivre quotidiennement à l'école, c'est un peu parler abstraitement. L'enfant dans la classe, il a besoin parfois de beaucoup de temps pour s'installer dans une activité. Parfois, il peut y avoir des activités qui vont très vite et qui se passent d'une manière tout à fait excellente. Donc moi, je serais plutôt pour qu'on réfléchisse, avant de parler de temps, qu'on réfléchisse à la nature des activités d'enseignement, des activités scolaires, et que l'on se demande ensuite combien de temps il faut pour installer ces activités durablement dans la classe. Et si, au collège, en français, un professeur veut faire du théâtre et qu'il a besoin d'une demi-journée complète, eh bien, je pense pas que ça sera trop long pour les élèves. Je pense que peut-être même ça sera trop court. En revanche, peut-être qu'un cours magistral traditionnel, 50 minutes, ce sera trop long.
Donc, est-ce que la fatigue des enfants qui est invoquée quand on plaide pour maintenir les 2 mois de vacances, l'été, etc., est-ce que la fatigue des enfants est due, selon vous, au temps passé à l'école ou à la durée de ces semaines?
Un enfant sur la plage peut trimballer des tonnes de sable en une journée sans se fatiguer, et il se fatiguera si on lui demande d'aller porter un seau. Donc la fatigue, ça n'existe pas en soi, c'est le sens qu'on donne à l'activité. Ce qui fatigue, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qui fatigue à l'école, c'est pas la réussite, c'est l'échec. Un enfant est fatigué quand il n'arrive pas à travailler, quand il ne comprend pas ce qu'on lui explique. Et donc pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est de s'interroger sur la formation pédagogique des enseignants, pour que précisément ils soient à même de travailler au quotidien avec les enfants d'une manière à occuper leur temps intelligemment. Or, je trouve aujourd'hui que la formation initiale des enseignants est un peu sacrifiée et que leur formation continue est totalement atrophiée, qu'elle est quasiment inexistante. Or, vous parliez de la Corée tout à l'heure. Mais la Corée, outre le fait qu'elle n'a pas beaucoup de vacances, elle a des formations continues très nombreuses des enseignants. Et la seule corrélation qu'on a dans PISA aujourd'hui sur la réussite scolaire, c'est la réussite scolaire avec le temps de formation continue des enseignants.
Il y a des études sur le lien entre réussite scolaire et congé scolaire ou pas?
Moi, je n'en connais
pas.
Non,
moi non plus, je n'en connais pas. Mais par contre, la question du temps global
de l'élève. Répondre, secrétaire général du
Oui, on parle généralement du temps global de l'élève. Parce que dans la journée d'un élève, il faut inclure le temps de transport pour arriver à l'établissement et pour en repartir. La pause méridienne, la question des devoirs à la maison. C'est vrai que si vous ajoutez à la journée en classe un travail personnel dense, important, ça allonge. Cette journée de fête. Donc c'est tout ça. La durée des séquences aussi, bon Philippe Mérieux, les séquences en principe dans le second degré sont de 55 minutes. Mais il y a des moments où on aurait besoin de plus parce que on a un temps d'activité qui fait qu'il y a un temps de découverte, puis après aussi où on donne quelques consignes aux élèves, et ensuite il y a ils vont eux-mêmes essayer de mettre en œuvre ce qui a été donné par le prof. Bon, donc il faudrait plus de souplesse de ce point de vue, oui.
Et sur la question soulevée par Philippe Mérieux de la formation des enseignants sur ces questions pour éviter la fatigue de tout le monde finalement, et des enseignants et des élèves qui comprennent rien et à qui peut-être on inculque trop la culture.
On sait que, y compris quand on parle des problèmes de violence quelquefois, que souvent ces problèmes sont engendrés par le fait d'un sentiment de dévalorisation de soi-même parce qu'on est en échec scolaire, parce qu'on n'y arrive pas. Alors c'est vrai que c'est, en même temps c'est complexe, ça met en jeu des choses extrêmement compliquées, mais c'est vrai qu'un enfant, si on prend le sport par exemple, c'est très curieux de voir quelquefois des élèves qui sont capables mais vraiment d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour une activité sportive, qui vraiment physiquement est épuisée, et parce qu'ils trouvent sens à ce qu'ils font, ils ont envie de se dépasser, alors que s'ils perdent pied dans une discipline, très vite il y aura un sentiment de lassitude.
Myriam Ménez,
moi j'aimerais bien revenir sur la fatigue.
Il est normal aussi, à un moment de la journée, le soir, il est normal d'être fatigué. Enfin, on n'accepte pas non plus le fait que la fatigue, c'est normal. Sinon, on dormirait jamais. Enfin, on serait peut-être tous contents d'ailleurs de jamais dormir. Mais c'est normal d'être fatigué. Le problème, c'est à quel moment on est fatigué. C'est sûr que si on est fatigué à 11h du matin, mais que par contre, on pète la forme en rentrant à la maison à 17h, c'est pas très normal. Parfois, nous, parents, on nous dit, oh, vos enfants sont fatigués. Et puis le soir, on rêverait qu'ils soient fatigués pour moins avoir à courir derrière pour les coucher. Donc, si vous voulez, la fatigue, elle est aussi très relative. Il y a des gens qui interprètent la fatigue. Il y a des gens qui vous disent vos enfants sont fatigués, nous on le constate pas. Enfin bon, la fatigue, c'est quelque chose de très relatif. Il y a des fatigues qui sont saines, qui sont normales, et puis il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Donc c'est la fatigue qui n'est pas normale qu'il faut arriver à traiter.
Donc ça, il faut qu'enseignants et parents d'élèves se mettent d'accord pour le moment où les élèves doivent tous tomber de sommeil. C'est ça, pour
travailler en bonne intelligence. Oui. Mais travaille au sens de s'investissent dans leur travail. Il faut qu'ils sortent fatigués de l'école. Je trouve que les enfants ne travaillent pas assez à l'école, moi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis suffisamment en activité au quotidien, dans des choses qui leur permettent de s'investir, de s'engager, de se dépenser. Et ce serait bien qu'ils le fassent plus et qu'ils arrivent un peu plus...
On a un problème relativement récent qui est le manque de sommeil de certains enfants.
Ah bah aussi, parce évidemment.
Pourquoi récent?
Bah, c'est avec
les vidéos, les écrans.
Oui, c'est ça, l'amplification.
Et ça, vous le constatez?
Ah oui, on le constate.
Ah oui. Le nombre d'élèves. C'est très grave. C'est un problème de santé publique.
Avec leur téléphone portable ou leur tablette à côté d'eux et qui continuent à l'utiliser jusqu'à une heure relativement tardive. Mmh. Oui,
oui. Nos enfants ont-ils trop de vacances? Donc, on revient à cette question initiale du grain à moudre d'été pour les quelques minutes qui nous restent. Jean-Michel Blanquer dit qu'il ne donnera pas un grand coup de pied dans la fourmilière tout de suite, qu'il va bien sûr mettre autour de la table tous les professionnels, les syndicats, alors pour les prendre dans l'ordre, les parents d'élèves, les syndicats enseignants, les professionnels du tourisme. En fait, cette question des vacances, elle va quand même bien au-delà de la simple organisation des enseignants et du temps scolaire. Qui doit être...
La sécurité routière aussi.
Pourquoi la sécurité routière?
Parce que sur le zonage, la sécurité routière, à chaque fois, tient le raisonnement suivant, en disant si tous les gens partent en vacances à peu près à la même période, il y a des bouchons sur les routes.
Donc le grand chassé croisé, voilà. Le fameux...
Donc ils font des études. D'ailleurs, les zones sont aussi conçues en fonction des déplacements, pendant les congés.
C'est dommage parce que aussi,
vous savez, Philippe Mérieux, que Nicolas Mathieu prit Goncourt l'année dernière dans son livre Leurs enfants après eux, dit que le grand chassé croisé, c'est le grand unificateur national. C'est le moment où tout le monde se sent appartenir à un même pays. On part tous en vacances, on en revient.
Non, mais vous donniez les différents partenaires qui vont être associés. Moi, j'aimerais bien que les médias soient associés. Il y a une chose qui me choque beaucoup, je ne vous dis pas à vous, à France Culture, mais d'une manière plus générale, c'est la pauvreté, voire le caractère insipide des programmes de vacances. Alors que ce devrait être le moment, au contraire.
J'espère que vous ne parlez pas de France Culture.
Je ne parle pas de France Culture. Ah, parce que là, je parle d'un certain nombre de chaînes de télévision. Il est parfois difficile, un soir, même si on a un choix de chaîne assez important, de trouver une émission intelligente à regarder avec ses enfants pour en discuter après, parce qu'on a un peu de temps et qu'on ne se lève pas le lendemain matin.
Faites-leur écouter à vos enfants La Grande Traversée sur Walt Disney. Faites-leur écouter La Grande Traversée sur Céline. Bon, ça, il faudra ensuite en débattre ensemble. Donc voilà, on parlait des professionnels et de tous ceux qui doivent être mis autour de la table. Le secteur du tourisme aussi, nécessairement, Myriam Ménez, mais est-ce qu'il prend trop de place dans ce débat-là, le secteur du tourisme?
Il prend beaucoup trop de place, parce que moi, j'ai eu la chance de participer à des réunions de travail sous l'ancien ministère, où justement, parce que c'est une question, c'est le marronnier, les vacances. Donc, et là, on avait des professionnels et on avait un certain nombre de statisticiens. Quand ils vous expliquent qu'il y a 10 à 15% des enfants qui vont à la montagne en février, donc ça sous-entend quand même qu'on oblige trois zones à 85% d'autres enfants. À un moment, il faut quand même toute mesure garder. Les professionnels du tourisme doivent effectivement trouver leur compte, mais enfin, la santé des enfants doit quand même passer avant.
Mais peut-être qu'ils ont les mêmes intérêts, parce que les professionnels du tourisme, ils disent que plus le calendrier est étalé, et plus c'est serein quand même aussi pour eux. En revanche, plus il est serré, et plus les gens partent à l'étranger. Alors, je ne sais pas pourquoi on fait ce lien-là. Plus le calendrier, plus les vacances seraient courtes,
plus on partirait à l'étranger. Quand ils parlent d'étaler, c'est bien d'essayer de zoner tout ce qu'ils peuvent. C'est à un moment où on s'était bien posé la question de zoner aussi les vacances de la Toussaint.
On s'est posé la question de zoner les vacances d'été, comme ça les enfants rencontreront plus la famille. Ceux qui ont encore des familles qui se rejoignent à certaines périodes de l'année, il y aura plus rien en commun. Donc, non, quand ils vous lisent, il faut les étaler, eux, ils parlent de zonage.
C'est remplir, notamment les stations de sport d'hiver.
Le zonage tel que le décrivait Frédéric Rollet, c'est-à-dire un zonage qui déséquilibre complètement l'alternance février, de cette semaine de travail.
15 février pour la première zone, 22, 29, et celle qui commence le 15 février, ensuite va se retrouver avec un troisième trimestre très très long.
Et puis quand 10 à 15% des enfants partent au sport d'hiver et qu'on organise tout pour eux, on oublie de dire que simultanément, la plupart des municipalités qui organisaient des classes de neige sont en train de revenir en arrière. Et qu'elles n'ont pas suffisamment les moyens pour continuer à aider les milieux modestes à découvrir la nature.
Tout à fait, parce qu'à l'inverse, la grande majorité des enfants vont connaître les sports d'hiver, de ces enfants qui n'y vont jamais, vont les connaître que grâce aux classes transplantées d'hiver. Et plus on étale les vacances d'hiver, et moins on a une offre, effectivement, pour les classes transplantées.
Bon, pour autant, vous êtes quand même d'accord pour qu'ils prennent leur place autour de la table, ces professionnels du tourisme. Il faut quand même se mettre d'accord avec eux. Vous discuterez avec eux lors d'éventuelles grandes...
Toujours intérêt, à toute façon.
On a toujours intérêt, ce qui est un maximum de personnes autour de la table.
Allez, pour terminer cette émission, dernière question. Est-ce qu'il faut instaurer un droit aux vacances, comme on l'entend ici et là, et qu'est-ce que ça voudrait dire?
Ça dépend ce que ça veut dire, oui.
On l'entend partout, maintenant il faut un droit, j'imagine pour ceux qui ne peuvent pas partir de toute façon. Pour ceux qui ne peuvent pas partir, un droit aux vacances, un droit à pouvoir partir.
Oui, moi je pense que c'est important.
Est-ce qu'on peut le faire?
Dans une région de Nord-Pas-de-Calais où énormément de gens ne partent pas en vacances. Et certains enfants n'ont jamais vu la mer, alors qu'à Lille, on est à 100 km quand même de la mer. Mais c'est vrai que c'est quelquefois, il y a des enfants qui partent pas très très loin. Il suffit le fait de découvrir un autre mode de vie, d'autres familles, un paysage différent, c'est quelque chose, à mon avis, d'absolument. Absolument décisif, oui.
Mais tout n'est pas que question de calendrier. En quelques mots, Philippe Mérieux.
Développer aussi, on le disait, les classes transplantées pour permettre à ceux et celles dont la famille ne leur permet pas encore de partir en vacances, de découvrir quand même le monde, et dans des conditions qui sont celles d'une découverte culturelle exigeante.
Voilà, c'est pas juste une histoire de calendrier. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU, Myriam Ménès de la PEP dans le Val-de-Marne et Philippe Mérieux. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Riposte, écoles alternatives, neurosciences et bonne vieille méthode pour en finir avec les miroirs aux alouettes, paru l'année dernière aux éditions Autrement. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour la toute dernière émission du grain à moudre d'été et du grain à moudre tout court. Hervé Gardet a eu l'occasion de l'annoncer à la fin juin sur cette antenne et de remercier son équipe. Je les salue tous. Et comme vous l'avez peut-être déjà entendu aujourd'hui dans les matins de Guillaume Herner, qui va reprendre cette tranche d'information? Un producteur que vous connaissez bien. Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Bonsoir Julie Gacon.
C'est donc vous qui serez à 18h20 toute l'année, du lundi au vendredi, à cette même place.
Exactement, nous allons prendre la suite. Vous savez, la radio c'est une course de relais sur la même journée, puisqu'on se passe le relais d'une émission à l'autre, comme vous le faites très régulièrement, mais aussi de relais sur une année ou sur une saison, et donc nous allons prendre la place du grain en moudre, nous installant sur une vieille émission qui était bien installée dans cette maison, et donc nous allons reprendre exactement la même temporalité, exactement le même rythme, pourrait-on dire, mais on va essayer de renouveler peut-être les propos. Ça s'appelle désormais le temps du débat, donc ça commence lundi, nous allons commencer en parlant de la non-violence. Nous allons évoquer ensuite mardi la question de la course aux armements, des thèmes que vous pouviez entendre déjà dans l'émission du Grain à Moudre avec une toute nouvelle équipe, Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Bas, Hugo Boursier qui m'accompagneront pour préparer cette émission donc tous les jours pendant toute une année.
Et Fanny Richet qui donc fait le lien, la transition.
Exactement, puisqu'elle était déjà dans l'équipe précédente.
Depuis très longtemps.
Et sinon, on a renouvelé complètement cette équipe.
Et votre... les auditeurs vous connaissent pour la fabrique de l'histoire, votre côté historien, votre bagage d'historien va apporter...
Nous allons tenter d'aller du côté des sciences humaines, de dire combien les sciences humaines peuvent éclairer l'actualité d'aujourd'hui en particulier, et puis aussi de faire se croiser des chercheurs de terrain avec des acteurs de terrain, parce que nous pensons que le terrain c'est important, et de comprendre que c'est par le terrain, par la manière dont on aborde justement une réalité sociale aujourd'hui, que l'on peut peut-être renouveler la vision de l'actualité. l'actualité, la vision de l'événement. Qu'est-ce qu'un événement dans nos sociétés? On essaiera de le penser aussi avec beaucoup de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs dans cette émission.
Eh bien, hâte de vous entendre et de vous écouter, Emmanuel Laurentin. Et puisqu'on parlait de rythme dans cette émission, vous allez changer sacrément de rythme quant à vous. Oui, merci Emmanuel Laurentin et bienvenue à vous ainsi qu'à surtout toute votre équipe. Quant à moi, il me reste à saluer la valeureuse équipe du Grain à Moudre d'été, les précieuses Stéphanie Villeneuve, Alia Tovin, Léa Capuano, Roxane Poulain et Valentin Berg. J'ai dit précieuses parce que les femmes étaient quand même en grande majorité ici. Bonne route à vous toutes et tous dans vos aventures et projets respectifs. Un grand merci à Milena Eilig qui a réalisé cette émission pendant un mois. À la prise de son ce soir, c'était Jean Frédérics. Très bonne soirée sur France Culture et surtout très bonne fin d'été. Profitez-en tant qu'il est là. Dans un instant, matière à penser.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À la recherche du temps perdu cet été sur France Culture. Perd-on jamais son temps quand il s'agit de parler de Proust? Revisité cet été par Antoine Compagnon.
Proust, essayiste. Je voudrais donc parler cette année de Proust non romancier.
Les cours du Collège de France, chaque samedi et dimanche d'été à 15h et sur franceculture.fr. Le nouveau rendez-vous quotidien d'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Dès lundi, au cours de l'histoire, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi. Avec une semaine qui se termine par une balade radiophonique en direct de Berlin, 30 ans après la chute du mur, que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui ? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Et pour ce dernier matière à penser de la semaine, c'est toujours Antoine Garapon que vous retrouvez à 19h. Très bonne soirée sur France Culture.